Histoire des îles Marquises, de Akakayo Tehenua Enana, de Fenua Enata. Une série de 60 émissions conçues, réalisées et racontées par Jacques Yakopou Pello.
Chers amis des îles Marquises et du reste du monde, Ka Ohanui, et bienvenue dans cette 23e émission.
Édition 2023.
La fois passée, nous avions assisté au passage de porteurs par Uahuka et son arrivée à Nukuhiva. En l'absence du chef Kiatonui, il part inspecter la baie de Hakaui. Aujourd'hui, au retour du chef, les deux hommes vont se rencontrer. Et Kiatonui voudra échanger immédiatement son nom avec porteur Kar, les Hapa'a de Teuhitu menace Taiohae et il sent que l'Américain peut l'aider à les repousser. Il n'a pas tort. Le 27 octobre, donc 1813, on apprend donc à Porter le retour de Kiatonui auquel il envoie une grosse truie anglaise par une chaloupe qui ramène le chef à bord. On se souvient que le chef en avait réclamé une. En 1804, le russe Krusenstern écrivait que Kiatonui avait entre 40 et 50 ans. 10 années plus tard, comment Porter le retrouvera-t-il? Eh bien, il va être un peu étonné. S'attendant à voir un guerrier paré de tous ses atours, Porter est surpris à la vue du vieil homme qui monte à bord avec pour tout vêtement un pagne hami de tapa et pour tout ornement un morceau de palme autour de la tête. Un long bateau semble l'aider à marcher et son allure est chancelante car il a bu du cava avant de venir. Il en a sûrement abusé au cours de sa vie car sa peau noire est calleuse et paraît se desquamer. Par endroits, la peau tombe. En outre, le coup de canon tiré en son honneur lui fait très mal aux oreilles, autant de symptômes de l'abus de cava, dont nous reparlerons aussi très bientôt. Le morceau de palme autour de sa tête, c'est peut-être le pa'e-koa-ehi, symbole des taua, puisque Kiatonui était aussi un taua. Nous reviendrons sur la tradition du kava dans une prochaine émission. Pour l'instant, il nous suffit de savoir que le kava était une boisson calmante réservée à la classe Taapu. Son abus, ayant des conséquences mortelles pour le foie, il a été interdit dans l'archipel en 1927 sur les conseils du docteur Rollin. Les deux hommes descendent dans la cabine de porteur qui montre à Kiatonui des dents de cachalot qui le font sortir de sa torpeur. Porteur propose au chef de prendre ce qu'il veut et ce dernier prend la plus petite des dents qu'il cache dans son pagne hami, expliquant à Porter qu'il ne doit parler à personne de ce cadeau si cher. Ce n'est pas la première fois qu'on constate combien les anciens Enana apportaient de valeur aux dents de cachalot. J'en ai déjà parlé. Kiatonui demande alors à Porter d'échanger son nom avec lui et de l'aider à se défendre des Hapa'a qui le harcèlent. Si Porter accepte la première proposition qu'il arrange, il explique à Kiatonui qu'il veut rester en paix avec toute la population de l'île. Il n'est pas venu pour faire la guerre. Il est venu pour réparer ses bateaux. Il demande au chef de faire la paix avec les Hapa'a, mais lui signifie qu'il le défendra s'il l'attaque. Kiatonui n'est pas satisfait et lui explique que les Hapa'a ont insulté les os de sa mère, Putahai'i, décédée récemment, et que lui, porteur, doit répondre à cette insulte maintenant qu'ils ont échangé leur nom et que la mère de Kiatonui est devenue la mère de porteur. Ce dernier comprend la stratégie du chef et lui dit qu'il lui donnera sa décision après avoir réfléchi. À la demande maintes fois réitérée de Kiatonui, Porter fait débarquer un canon de 6 livres, ce qui fait un boulet de 3 kilos pour un canon de 10 cm de diamètre, un petit canon. Un canon qu'il essaye sur la plage, au grand plaisir des Enana qui le caressent et le cajolent. Il désigne ensuite une montagne au sommet de laquelle il demande qu'il soit porté, espérant que cela prendrait 2 semaines, éloignant ainsi du campement une foule de curieux, devenue encombrante. Les insulaires s'exécutent avec enthousiasme. Le lendemain, 28 octobre, Kiatonui fait envoyer à Porter des pirogues chargées des quantités de porc, de noix de coco et de bananes qui sont réparties entre les différents navires. Il fait aussi savoir à Porter que le canon de 6 est déjà au pied de la montagne. Porter est étonné et lui répond qu'il envoie 40 hommes avec leurs mousquets. Il demande à Kiatonui de lui fournir en plus 40 hommes pour porter les mousquets et 40 autres pour se charger des vivres et des munitions du canon. L'expédition contre les Hapa'a est prévue pour le lendemain sous le commandement du lieutenant Downs. Dans la matinée du 28, Porter reçoit la visite de Mowina, qui est le Toanui, le chef des guerriers de Kiatonui, avec lequel il est descendu de Mu'ake pour voir l'effet des mousquets qu'il appelle Puhi. Comme quelques Hapa'a se trouvent à proximité du camp, Porter les engage à bien regarder la démonstration de tir. Après avoir lui-même détruit une cible, il commande à des fusiliers marins, les Marines de maintenant, de l'imiter sur un tonneau qu'ils réduisent en morceaux, provoquant l'enthousiasme de Mowina. Les Hapa'a présents ne paraissent pas impressionnés et déclarent qu'ils sont prêts à courir les risques d'un combat, à l'issue duquel ils seraient disposés à faire la paix en cas de défaite seulement. Porter sent bien qu'il a eu raison de lancer son action car les Teihi commencent à croire qu'il a peur des Hapa'a. Dans l'après-midi, les Hapa'a attaquent carrément le campement américain par le haut des crêtes de Teuhitu'u, détruisant près de 200 arbres à pin. Pas étonnant qu'il ne reste plus rien à Kapehi. Porter fait donner du canon et les Hapa'a rebroussent chemin. Porter se prépare à une nouvelle attaque. Le soir, seul un quart des hommes d'équipage est autorisé à aller à terre, mais en armes. Les hommes profitent ainsi des nombreuses femmes qui les attendent, prêtes à les satisfaire contre un cadeau Tai-Tai, qui va des cerceaux de fer avec lesquels leur mari fabrique des herminettes Toki, à des bouteilles de verre vides. Mais il y a tellement de femmes que les affaires se font même sans cadeau, nous dit Porter. Porter est même étonné de voir comment les hommes marquisiens paraissent peu troublés de voir leurs épouses, filles et sœurs passer ainsi de l'un à l'autre. Les femmes semblent n'y voir qu'une faveur accordée à des étrangers auxquels elles doivent l'hospitalité. Rappelez-vous que Krusenstern, en 1804, pensait que c'était les maris, les frères, qui envoyaient les femmes pour récupérer du matériel contre l'échange d'un rapport. Le 29 octobre au matin, Porter donne l'ordre de départ à l'expédition prévue la veille et commence le déchargement de son matériel, en particulier des barils à eau, qui, une fois alignés, forment une barrière de protection temporaire. Il fait aussi porter à terre les voiles des navires et fait ériger une grande tente servant d'abri couvert qui est protégée par un corps de fusiliers marins. Il fait descendre deux autres canons, il fait dégréer les sexes, c'est-à-dire enlever les cordages, et porter les vivres et munitions sur les navires capturés, qu'il appelle ses prises. Les navires capturés sont ancrés entre Akaperi et Tuhiva, et tant au large, ils sont aussi protégés des ennemis marquisiens, éventuellement. Sur le rivage, on commence la construction d'un four à pain, dont les briques proviennent des bateaux prises, et du pain frais sera ainsi servi à tous les hommes tout au long du séjour. En effet, il faut savoir que le pont des navires baleiniers était muni d'énormes réchauds maçonnés en briques sur lesquels reposaient de gigantesques marmites ou chaudrons dans lesquels on faisait fondre le gras de baleine afin de récolter de l'huile, ensuite stockée dans des tonneaux. En l'occurrence, Porter a fait démonter ces réchauds brique par brique et il se sert de ces briques réfractaires, c'est-à-dire supportant le feu, afin de faire construire un four à pain pour nourrir ses hommes. Le travail des hommes s'arrête à 16 heures, après quoi seuls ceux qui en ont la permission peuvent rester à terre, soit un quart des équipages. Quand le four à pain entre en activité, les Enana, surtout les femmes, y prennent goût de manière immodérée. Elles sont prêtes à n'importe quoi pour obtenir un petit morceau de pain. À la demande de Kiatonui, Porter écrase des grains de blé entre des pierres pour leur montrer la farine que les Enana nomment alors mei ou potato, nom qu'ils donnent aussi au pain. Pour une miche de pain, certains chefs donnent des ornements personnels, des cochons ou des fruits.
No toko e oko ki, e te po e a e. O atahi te he nua, au ani oko te po, aude pa ya koe no to koe ma kivi kivi no to koe o kivi e te to anui no to koe o kivi e te poe ae vaitahi e to
L'expédition s'est-elle éloignée de Taiohae que Kiatonui arrive au camp annonçant la venue en émissaire de paix de sa fille aînée, Tahiatapu, épouse du chef Hapa'a que Porter nomme Moetei, que Crook nommait Mawateii et qu'on appelle aussi Teii Moeao. Par crainte d'une ruse, Porter retient Kiatonui prisonnier au camp et lui demande de faire venir sa fille. Kiatonui lui dit que sa fille est enceinte et qu'elle ne peut venir. C'est alors qu'une autre jeune fille arrive au camp, criant que les Hapa'a ne sont pas loin. Porter fait tirer le canon d'alarme pour rassembler ses hommes et mettre en fuite l'ennemi. Sur la montagne, les fusiliers marins de Porter ont entendu le canon et se ruent à la poursuite des Hapa'a. Vers 11 heures, ils atteignent les crêtes qui dominent Akapehi, puis disparaissent de l'autre côté. Porter voit le drapeau américain progresser non loin de Mowina, le chef des guerriers, Titoanui, dont il reconnaît la cape et le panache. C'est peut-être un ta'avaha qu'il portait pour se faire remarquer pendant le combat. Averti de la détention de Kiatonui, son épouse Tahia Taioa se rend au camp avec ses filles et ses petites filles. Elles ne sont pas inquiètes et s'intéressent à tout. Les chèvres et les moutons les étonnent, ainsi que les tortues des Galapagos. Elles posent des questions aux hommes chargés des voiles, aux menuisiers, charpentiers et boulangers qui savent faire. Porter leur fait visiter sa tante. Tahia Taioa lui rappelle alors qu'ayant échangé son nom avec son mari, Porter est devenu son époux et le protecteur de sa famille. Porter répond avec malice qu'il est prêt à jouir de tous les privilèges, faisant ainsi sourire la vieille dame, qui lui désigne alors ses petites filles, dont les clins d'œil montrent l'accord avec la grand-mère. Vers 16 heures, la troupe réapparaît sur les crêtes et les naturels portent 5 cadavres sur de longues perches. À son retour au camp, le lieutenant Downs raconte à Porter comment, Arrivés derrière la crête, ils furent confrontés à une armée de 3000 hommes retranchés dans un fortin qu'on appelle la Kaua, ou Pa, d'où les Hapa'a leur montraient leur derrière, les assaillants de lances et de pierres. Towns en reçut une en plein ventre et un homme eut le cou transpercé. Mais en qualité de soldat aguerri en mer et habitué à l'abordage au corps à corps, les fusiliers marins lancèrent 3 « Hip 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 hooray !» puis ils chargèrent et entrèrent dans le fortin. 5 Hapa'a furent abattus et un autre combattit jusqu'à ce que le canon d'un mousquet lui fût appliqué sur le front et que le coup lui fit sauter la moitié de son crâne. Il n'avait jamais vu de mousquet. C'est un peu curieux quand on sait que les premiers mousquets firent leur apparition sur Nuku'iwa à partir de 1800. Mais les Hapa'a, ayant peu de contact avec les étrangers, ce n'est pas impossible. À la débâcle des Hapa'a succède le saccage de leur vallée. Les Tei'i rapportent des nattes, calebasses, tambours, coco, porcs et fruits, ainsi que de grandes quantités d'une plante qui pousse gros comme le poing et dont les fibres produisent une étoffe très belle et très recherchée. Si vous avez une idée de ce que c'est, faites-le-moi savoir, car je n'en ai aucune idée personnellement. Les cadavres des vaincus sont insultés, maltraités. Chacun veut y planter sa lance afin de la recouvrir du sang du guerrier mort dont elle porte maintenant le nom. Devenue trophée, la lance non essuyée jouit d'un énorme prestige qui rejaillit sur son propriétaire. Habitué à des escarmouches avec 2 ou 3 blessés et peut-être un mort, Kiatonui est très impressionné par la prise du fortin Hapa'a et par le nombre de morts qui dépasse celui des batailles dont il pouvait se souvenir. Il comprend alors la force de porteur qui le relâche en lui demandant de lui faire parvenir un émissaire de paix, Hapa'a. Toute la famille de Kiatonui prend la direction de la vallée Me'ao. Un des intérêts de ce passage est de nous faire découvrir les fortifications marquisiennes dont Rollin dit qu'elles se nomment Aka'u, un mot qu'on trouve bien dans le dictionnaire d'Ordillon avec ce sens. À la fin du journal d'Edward Roberts, on trouve aussi un lexique anglais marquisien très fourni dans lequel, pour le mot « fort, fortin », Roberts écrit « Pa'toua », c'est-à-dire « fortification de guerre ». C'était donc le mot qu'on utilisait aussi à l'époque. « Pa'toua » ou « Aka'ua ». Sur l'île de Rapa, en Polynésie, en Nouvelle-Zélande et à l'île de Pâques, les fortifications se nomment « Pa ». Aux Marquises, elles étaient composées de troncs dressés de 10 mètres de haut formant palissade, au sommet interne de laquelle courait une coursive permettant de lancer ses armes sur l'ennemi en toute sécurité, pierres de fronde et lances. Dans une prochaine émission, nous en reparlerons en traitant de la guerre en général. Pour ce qui concerne Nuku'iwa, mes lectures m'ont permis de découvrir que 2 fortins protégeaient l'accès à Taioha et par le nord. L'un se dressait après le col de Te'a'a'oa, à l'embranchement actuel de la route de Taipivai, et l'on pouvait encore en voir les ruines dans les années 50, dont les abords étaient encore jonchés de pierres de fronde. Ce site a été ravagé lors de la construction d'une piste de parapente dans les années 1990. Tout au sommet de Mu'ake, nommé Mu'aketu par les anciens, se dressait un 2e ensemble de fortifications dont le professeur Sox fit le relevé en 1957. Dominant la vallée de ses 800 mètres, le site a été choisi pour abriter toutes sortes d'installations de télécommunications qui ont détruit les restes du fortin. Avec le combat dont nous venons de parler, nous apprenons aussi qu'il y en avait un du côté Te'uhitu, et qu'emportèrent à Takra les Taipi par la mer. Dans une émission que nous verrons très bientôt, il se heurtera à une muraille fermant la vallée à peu près 500 mètres de la plage. Porteur écrira qu'elle est de forme incurvée, haute de 7 pieds, 2 mètres 10, et longue de 50 verges, 45 mètres. Elle est épaisse de 6 pieds, 1 mètre 80 à la base, s'amincissant graduellement en allant vers le sommet. Voilà encore une enquête à mener afin de voir s'il en reste des traces. Chers amis, ne manquez pas la prochaine émission au cours de laquelle Porter se rendra dans la vallée Me'ao afin de s'assurer que les 5 morts rapportés des combats ne sont pas consommés. Nous verrons aussi comment, sous la direction de Kiatonui, 4000 Tei'i et leurs alliés Hapa'a construisirent le camp de Porter à Akapehi. Nous apprendrons aussi comment les Taipi de Vai'i ne veulent pas de l'autorité de Porter et comment cette situation conduira à une guerre en 2 épisodes très différents. À bientôt pour la suite de cette histoire touchante et passionnante des îles Marquises. Rejoignez-moi sur ma page Facebook Te'eo et sur mon site internet te'eo.com. Et merci à Kanahao Trio pour sa chanson Vai e Tahi, nom d'un guerrier de Uapo
de l'ancien temps, célèbre pour sa beauté et son courage.
Si une question vous brûle les lèvres, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail copo@mail.pf ou sur mon Vini 87 756 719. À bientôt, apai, o oaiho.